boule vanille. J'aime bien la framboise.
Je pense que je prends deux boules vanille.
Deux boules vanille.
Deux boules vanille.
Bonjour, c'est Lucie. Tout au long de l'année, vous m'entendez dans l'émission d'information locale La Reine, qui reviendra à la rentrée en septembre. Là, ce que vous écoutez, c'est Deux boules vanille, une carte blanche qui est laissée aux équipes de la radio pendant la période estivale. Dans l'émission du jour, on va parler d'un sujet pas très joyeux, mixité sociale dans les écoles, alors que les derniers élèves en primaire s'apprêtent à quitter leur classe pour deux mois.
Les dames de la cantine voudraient savoir qui est en situation d'arabie pigmentaire à propension musulmane.
Bon, qui mange du cochon?
Il était malade ce matin, Milo?
En fait, on l'a enlevé de l'école pour le mettre à Saint-Benoît.
On veut ce qu'il y a de mieux pour nos gosses, quoi, c'est normal.
Bon, écoutez, Laurentin, c'est le seul de la classe.
Le seul quoi?
Le seul blanc.
Tu me dis ça à moi en plus?
Oui, mais la mixité, pour que ce soit de la mixité, pour que ce soit de la mixité. Si ça n'est pas de la mixité, ça n'est pas de la mixité, tu vois?
Voici Saint-Benoît, notre protecteur. Mais l'école est aussi accessible aux non-croyants.
Alors moi, je suis avocate et lui est musicien professionnel.
Et je vois que vous avez fait un clip.
Ah non, non.
Je suis sincère avec toi, Zer. Moi, je veux que ma fille aille en face dans la nouvelle école avec la France d'en haut.
Tous nos meilleurs élèves veulent filer à la résidence Harmonie avec les Parisiens. On peut pas laisser faire.
Eh ben, on va créer la première école verte de banlieue.
Ça, tu peux arrêter avec tes galettes de riz, s'il te plaît. Faut la transformer, cette école.
Les enfants, ils ont besoin de sentir le vivant, la nature.
Et on va venir implorer le ciel.
On entend combien d'oiseaux, là?
Faites flipper, tu montes une secte ou quoi?
Moi, ils veulent envoyer nos enfants aux espaces verts.
Et la petite a dit quoi?
Ben, kiff, c'est ça le pire.
Bon, ça c'est du cinéma, vous venez d'entendre d'abord un extrait de La lutte des classes, film de Michel Leclerc qui est sorti en 2018, avec, vous aurez peut-être reconnu leur voix, Leïla Bekhti et Édouard Baer au casting. Puis, second extrait tiré cette fois du film La cour des miracles, c'est sorti en 2022 et réalisé par Karine May et Hakim Zouani. Dans le rôle principal, on retrouve Rachina Brakni, deux films qui ont en commun d'aborder le sujet de la ségrégation sociale à l'école, et c'est le sujet de l'émission. Alors avant de vous proposer de réécouter trois rencontres à ce sujet, quelques explications. On dispose de chiffres que depuis 2022, en fait, suite à la mobilisation d'un lanceur d'alerte, le journaliste Alexandre Léchenet, qui travaille aujourd'hui chez Politicos, en 2019, il avait saisi la commission d'accès aux documents administratifs pour obtenir la publication des IPS, les indices de position sociale. Il faut dire qu'auparavant, le ministère de l'Éducation nationale s'y refusait, craignant, c'est ce qu'on lit dans le quotidien Ouest France, une hiérarchisation des établissements et un renforcement de l'évitement scolaire. Mais l'évitement scolaire, il est déjà là. À l'échelle nationale, pour faire simple, surtout en ville, on est très bon pour avoir des écoles privées avec un niveau social des élèves élevé, et c'est l'inverse dans le public. En février, le magazine citoyen rennais Alter Info a fait un joli boulot de décryptage de ces données à l'échelle rennaise. On commence par l'école élémentaire. 61 écoles sont recensées, 41 dans le public, 18 dans le privé, privé sous contrat. Il faut imaginer un tableau qui va du rouge foncé au bleu, avec un indice de position sociale qui va en augmentant. En queue de classement, on trouve d'abord l'école publique Tréguin avec un IPS de 66 et en tête de classement, l'école privée Saint-Vincent-Providence où l'IPS est là de 144. Si l'indice moyen ici à Rennes il est supérieur à l'indice national, eh bien le constat il reste le même qu'ailleurs puisque les 5 écoles avec l'IPS le plus bas, elles sont publiques et 4 des 5 établissements avec l'IPS le plus haut sont privés. Ce qui ferait de l'agglomération rennaise, je l'ai lu cette fois dans le Nouvel Obs, l'agglomération la plus ségrégée de France. Je vous propose de rester sur ce thème et d'écouter maintenant un reportage qui a été réalisé fin juin à l'école publique du Colombier, où les parents alertent depuis longtemps sur la vétusté du bâtiment, ce qui aurait pour effet de faire fuir certains parents de catégories socio-professionnelles favorisées vers le privé. Là-bas, l'IPS, l'indice de position sociale, y est de 85, ce qui fait que l'école est 49e dans le classement des 61 écoles de la ville.
On a affiché une banderole devant l'école. Sur cette banderole, il est écrit « Attention, 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 école Colombier égale école orpheline, bâtiment vétuste, difficulté sociale, accompagnement des familles insuffisant, végétation inexistante, école délaissée égale enfance en danger. On alerte depuis des années. Que font nos élus? Et il y en a une autre de l'autre côté qui est...
Il y a un artiste sur l'amiante.
Bonjour, je suis la maman de Marius. Je suis avocate.
Bonjour, je suis la maman de Léopold et de Suzanne.
Je suis chargée de mission sur des sujets en lien avec la transition écologique.
Bonjour, je suis la maman d'Irma. Je suis travailleuse sociale en recherche d'emploi.
Nous sommes délégués de parents d'élèves.
Auxquels s'ajoutent aussi quelques parents qui sont impliqués dans l'association de parents d'élèves et qui ne sont pas forcément délégués, mais qui nous appuient aussi pour l'ensemble des démarches. Je pense qu'il y a un peu mis le feu à la poudre, c'est le fait que l'éducation nationale a été contrainte de rendre public l'IPS. Et c'est un peu objectiver des choses qu'on ressentait, mais qu'on ne pouvait pas justement objectiver. Et de voir qu'effectivement, notre école, contrairement à l'ensemble des autres écoles du centre-ville, avait un IPS relativement bas, qui est comparable à d'autres écoles situées en réseau d'éducation prioritaire.
Donc IPS, qui est l'indice de position sociale, qui est rendu public depuis très récemment, depuis 2022. En gros, plus il est élevé, plus les élèves sont socialement favorisés dans leur moyenne. Là où c'est particulier, c'est que cette école, elle n'est pas classée en réseau d'éducation prioritaire. On peut juste redire pourquoi ?
Pour être classé en réseau d'éducation prioritaire, il faut remplir plusieurs conditions. Donc avoir un indice de position sociale assez bas et être aussi rattaché à un collège qui se situe en réseau d'éducation prioritaire. Or, l'école Colombier est rattachée au collège des Ormeaux, qui est un collège qui regroupe d'autres groupes scolaires, on va dire, avec un IPS beaucoup plus favorisé. Donc on ne peut pas bénéficier de soutien et de moyens humains tels que peuvent l'avoir les autres écoles REP.
Est-ce qu'on peut décrire un peu les conditions matérielles, l'état des bâtiments, etc. ?
Oui, les bâtiments sont très vétustes. L'école a été construite dans les années 70 et depuis, elle n'a jamais été rénovée. Donc il y a des classes qui n'ont qu'un simple vitrage, alors que nous sommes aux abords du chemin de fer. Donc l'isolation phonique et thermique est quasiment nulle. Donc lorsque le train passe, les enseignantes sont obligées d'arrêter la classe parce que les élèves ne les entendent plus. Et pour ce qui est de l'isolation thermique, on a eu des emails les lundis matins nous indiquant en hiver que la température était de 12 degrés dans les classes. A l'inverse, en ce moment, il fait 30 degrés dehors, il fait 30 degrés dans les classes aussi. Donc c'est très difficile pour les enseignantes de faire classe dans ces conditions.
Par-dessus ça, il y a eu récemment là, une alerte au niveau de l'amiante présente dans les écoles. Vous avez aussi remarqué que vous faisiez partie de ces établissements-là?
Oui, il y a de l'amiante également dans l'établissement scolaire Colombier, en particulier dans l'école primaire. Je crois qu'en école maternelle, on en a vu. Le problème a été résolu par la ville de Rennes avec du scotch pour combler les trous qui laissaient apparaître l'amiante. C'est encore un gros problème dans les classes de primaire parce qu'il y a de l'amiante qui est en train d'être découvert régulièrement. La ville de Rennes n'intervient pas, ou alors en disant de mettre simplement du scotch, je crois, sur...
Alors ça, c'était les premières préconisations qui, en fait, n'étaient pas les bonnes préconisations. Donc ils font du remplacement dalle par dalle. Mais des élèves élémentaires qui sont assis sur une chaise, en fait, ils ont tendance à bouger leur chaise. Donc ça frotte sur les dalles et le risque, c'est qu'il y ait éventuellement une propagation dans l'air de l'amiante. On sait qu'en fait, le risque lié à l'amiante, c'est l'inhalation. Donc en fait, on aimerait savoir si en fait il y a une exposition ou pas. On pourrait être rassuré si on avait des tests. Donc là, effectivement, ça fait quelques mois qu'on demande des tests parce que peut-être qu'en fait l'amiante qui est présente dans les dalles, même avec frottement, ne présente aucun risque et du coup, c'est tant mieux. Mais peut-être que ça présente un risque et pour l'équipe éducative et pour les enfants et auquel cas on aimerait le savoir.
Continuer à dérouler le fil, ces conditions-là matérielles d'accueil des enfants à l'école du Colombier, ça vous amène à émettre l'hypothèse que ça pourrait faire fuir certains parents peut-être de classes sociales plus favorisées qui ont la possibilité d'aller dans le privé, et donc de renforcer cette, on peut parler de ségrégation sociale un peu.
Oui, absolument, et il y a une réelle ségrégation sociale dans cette école parce qu'il y a une fuite de la part des populations, des CSP+, on va dire, qui mettent leurs enfants dans des écoles privées. Et ça se ressent très bien à l'école.
Pour planter juste un peu le décor, on n'est pas très loin du centre commercial du Columbia. Autour de nous, il y a à la fois des maisons, je dirais plutôt chic, et aussi pas mal d'immeubles. On parle d'un quartier qui, en tout cas, dans ses résidents, est plutôt mixte socialement.
le quartier est mixte socialement, mais si on regarde bien la carte scolaire, on a quand même une grosse proportion de logements sociaux, parce que la carte scolaire rattachée à Colombier, c'est à la fois le quartier Colombier, avec pas mal de logements sociaux, le quartier Arsenal-Redon, où il y a des logements privatifs, mais aussi des logements sociaux, et une partie du quartier Sud-Gare, avec la ZAC Madeleine d'un côté, des logements sociaux, et le foyer Rennais, rue de Nantes, de l'autre côté. Donc effectivement, on a quand même à la base une forte proportion de logements sociaux pour notre carte scolaire, avec un peu de logements privé. Et dans ce peu de logements privés, effectivement, il y a une fuite, un évitement ou d'autres raisons qui font que les enfants ne sont pas scolarisés ici.
Autour de cette école publique, il y a combien d'écoles privées ?
Alors, je pense que Notre-Dame des Miracles n'est pas très loin. Et Notre-Dame du Vieux-Cours est la plus proche. Peut-être chacune est à environ à 500 mètres d'ici.
Ouais. Il y a Saint-Joseph aussi. Mais...
Ah oui, effectivement. Ouais. La conséquence n'est pas tellement sur... les conditions d'éducation de nos enfants, finalement le fait qu'il n'y ait pas de mixité ou il y ait peu de mixité sociale, nous, nos enfants ont une éducation topissime dans cette école quand même. La crainte, elle est plutôt justement de faire fuir d'autres personnes qui auraient simplement peur, en fait. Alors qu'en réalité, l'équipe éducative fait en sorte que l'éducation des enfants soit très bien.
Mais sans moyens supplémentaires, effectivement, quand il y a 28 enfants par classe en maternelle, avec beaucoup d'allophones, donc beaucoup de nationalités différentes, donc en maternelle, c'est des enfants qui ne possèdent pas forcément encore le bagage à l'oral et à l'écrit du français, donc ça demande davantage d'accompagnement. Et comme on est, entre guillemets, une école classique, on n'a pas ces moyens-là. Donc la crainte, c'est plutôt aussi de voir cette super équipe éducative partir. Et puis, je ne sais pas si c'est d'un point de vue militant, mais effectivement, l'entre-soi, c'est jamais bon. Donc un peu plus de mixité, c'est pas forcément pour, entre guillemets, relever le niveau, mais juste pour être le reflet de la société.
Je rajouterais que la force de cet accompagnement de la part des équipes périscolaires et enseignantes permet à chaque enfant de trouver sa place et de prendre sa place. Et surtout, ça n'a pas d'impact sur la réussite scolaire de nos enfants. Est-ce que pour certaines d'entre vous, ça a pu être une réflexion de se dire peut-être le privé ?
A priori, non. Et jusqu'ici, pas du tout. Maintenant, il y a une nouvelle donne qui s'ajoute aux problèmes déjà existants. C'est la construction à 3 mètres des classes de maternelle d'un immeuble qui va faire 10 étages. Donc qui va encore plus venir encercler le groupe scolaire, qui va lui enlever en partie aussi le soleil qu'il peut avoir dans la cour. Et surtout, la construction va durer 2 ans. Donc ça va être 2 ans dont 12 mois de gros œuvres, donc 12 mois de travaux extrêmement bruyants qui vont avoir lieu à quelques mètres seulement des classes dont on disait tout à l'heure qu'elles n'avaient pas de double vitrage et donc qu'elles n'étaient pas isolées phoniquement. À partir du moment où on a eu connaissance du projet, on a commencé à vouloir avoir des informations. On n'a pas eu de retour à nos lettres de demande d'informations. Dans un second temps, lorsque le permis de construire a été déposé, là, on s'est permis d'envoyer des lettres recommandées. Et à partir de là, on nous a proposé un rendez-vous. Le rendez-vous, il a eu lieu 6 mois après. On nous a exposé le projet et on nous a dit « on va revenir vers vous avec des solutions ». On n'a pas eu de nouvelles de la ville pendant très longtemps jusqu'à ce qu'ils reviennent vers nous avec différents scénarios envisagés pour essayer de protéger les enfants du bruit du chantier. Et finalement, les scénarios qui ont été proposés sont très décevants pour les parents d'élèves et pour l'équipe éducative aussi, puisqu'ils consistent simplement à bouger les enfants de la maternelle dans l'enceinte de l'école primaire, c'est-à-dire réduire toutes les pièces.
Enfin, il n'y a pas de réflexion sur la délocalisation, il n'y a pas de réflexion sur la possibilité de mettre des préfabriqués, ou alors le coût s'avère trop élevé de mettre des préfabriqués en location pour pouvoir accueillir les enfants. Donc c'est vrai que les solutions, elles sont relativement limitées et en fait, ils ont élaboré ces scénarios en l'absence de l'équipe éducative qui est quand même la plus à même de connaître les contraintes d'usage. Alors on a une rénovation qui va arriver, mais après. Alors les calendriers se sont resserrés, la réunion du 13 juin en fait, on nous a annoncé que les travaux pour l'école allaient démarrer à l'été 2025. Donc on a quand même un chevauchement entre les deux chantiers.
Et ce projet de rénovation, il vise à venir justement combler là les failles sur cette école.
Je crois que ça fait plus de 10 ans que les parents délégués successifs alertent dans les conseils d'école pour parler d'isolation des bâtiments. Je pense qu'on est un peu dans le top de celles qui n'ont jamais eu même de travaux, un peu de rafraîchissement intermédiaire. Donc effectivement, ces travaux seront les bienvenus et ça va être rénovation, réhabilitation de l'école pour être plus performant énergétiquement et puis une meilleure isolation. Et puis je pense aussi revoir les usages et les fonctionnalités de l'école qui datent de 1977.
From School, par Grizzly Bear sur Canal B, un morceau qui est sorti en 2010 et que vous écoutez là, soit branché sur le 94.0 ou en ligne sur notre site canalb.fr. L'émission d'été de Boule Vanille se poursuit sur ce thème pas très estival de la mixité sociale en panne dans nos écoles. Pour compléter sur l'école élémentaire, j'ai pas réussi à avoir un retour de l'adjointe déléguée à ces questions d'éducation, qui s'est toutefois exprimée dans la presse locale fin mai, suite à la signature d'un protocole d'accord entre l'État et l'enseignement privé sur la mixité sociale et scolaire à l'école, mais sans contrepartie, et c'est ça qui fâche un peu Gaëlle Rougier, qui en est ressortie déçue, irritée. Pour elle, ce qu'il faut faire, c'est, je cite, « investir dans les écoles qui en ont besoin, revaloriser le métier d'enseignant, recruter et assurer des moyens dans les zones d'éducation prioritaires. Il faudrait également des outils de concertation avec le privé et les collectivités. » Fin de citation. Pour in fine, on le comprend, exiger des efforts de l'enseignement privé, notamment sur les questions d'école inclusive. Allez, on avance dans le parcours scolaire après l'élémentaire, l'arrivée au collège, où le phénomène de ségrégation sociale est sans doute le plus marqué, en tout cas en territoire urbain. Quelques chiffres avant de donner la parole au département et aux syndicats majoritaires dans l'enseignement en second degré. Des chiffres que j'utilise grâce au travail fait par le magazine citoyen rennais Alter Info. J'ai compté 19 collèges, 12 dans le public, 7 dans le privé. Les Hautes-Ourmes, la Binquenay, Clotilde Vautier, les Chalets et Rosa Parks, qui, comme par hasard, sont situés dans les quartiers prioritaires de la ville, notamment à Villejean, Maurepas et Aublonne, eh bien, ces établissements se retrouvent en queue de peloton avec un IPS compris entre 72 et 86. Petite exception, puisque voilà, les sujets ne sont jamais simples à comprendre, il y a de la complexité. On retrouve dans ce lot que je viens de citer un collège privé, le collège Joséphine Bakita, situé dans le quartier Sainte-Thérèse. On n'est pas très loin de la poterie, mais à part cet établissement, les autres collèges privés, ils sont plutôt en tête de classement général. En effet, ce sont 4 des 5 établissements les mieux notés, avec en tête de liste depuis au moins 7 ans le collège Assomption. Pour explorer ce sujet, je vous propose à présent d'écouter deux voix récoltées au mois de juin. D'abord, celle de l'élu au département d'Ille-et-Vilaine, en charge des politiques liées au collège, puis le syndicat SNES-FSU, qui est majoritaire dans l'enseignement du second degré. Jeanne Larue, bonjour.
Bonjour.
Jeanne Larue, vous êtes vice-présidente au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, déléguée aux questions d'éducation. Et le conseil départemental, il se trouve qu'il vient de lancer une concertation sur la mixité dans les collèges rennais, mixité sociale. Ça, c'était fin mai. On commence par dire que les écoles, selon le degré, elles dépendent de différentes institutions. Pour le conseil départemental, son champ d'action, c'est le collège. Ça implique quoi comme action ?
Alors, pour les collèges, nous construisons les collèges, nous les rénovons. Nous avons notamment beaucoup en ce moment d'opérations de rénovation énergétique, de remise à niveau esthétique des collèges. Nous sommes les employeurs des agents des collèges, qui sont les personnes qui font la cuisine, qui nettoient les collèges, qui sont au quotidien au sein de la communauté éducative, proches des élèves. Nous finançons également des actions éducatives dans les collèges, donc tout ce qui concerne l'ouverture culturelle. Nous finançons des voyages à l'étranger. Nous sommes également partenaires d'Erasmus+ pour de nombreux collèges. Donc c'est le département qui va dispatcher les sommes et animer cette ouverture sur l'étranger.
Ce sont en tout 62 collèges publics qui sont financés et accompagnés par le département d'Ille-et-Vilaine. Ce que certains auditeurs savent peut-être moins, c'est qu'il y a aussi un soutien aux collèges privés. C'est obligatoire, c'est dans la loi, en partie.
Oui, la loi, effectivement, nous impose de financer un certain nombre de choses pour les collèges privés, notamment des crédits de fonctionnement qui leur permettent aussi de faire face à leurs charges de personnel, de personnel des cantines. Et puis, nous avons aussi des contributions volontaires qui, elles, sont facultatives, qui nous sont dictées par la loi Falloux. Donc, nous subventionnons une partie des investissements des collèges privés. Et également pour les collégiens et les collégiennes du privé, une partie d'action éducative, donc d'ouverture culturelle.
Avant de parler de ce qui pose problème sur la mixité sociale, il faut qu'on rappelle ce qu'est évoquez la carte scolaire. Pour faire simple, notre lieu de vie détermine l'école, le collège, puis le lycée où on va étudier, avec parfois des dérogations pour certains.
Mais tout à fait, c'est tout à fait ça. Et donc la compétence du département, c'est celle de décider à partir de votre adresse dans quel collège vous allez être affecté. Donc notre travail, c'est pas seulement un travail sur la mixité sociale, c'est un travail global sur l'équilibre des effectifs. Mais effectivement, cet objectif de mixité sociale est un objectif que nous poursuivons très fortement cette fois-ci.
La carte scolaire, elle a été lancée au début des années 60. Au départ, l'objectif, c'était pas celui de favoriser la mixité sociale, mais surtout un objectif très pragmatique d'organiser l'offre éducative sur le territoire et puis de définir aussi l'aire de recrutement de chaque établissement. Pour ce qui est du département d'Ille-et-Vilaine, la carte scolaire, c'est un outil qui bouge pas très souvent. Là, on parle d'un moment où ça va bouger, mais c'est complexe, quoi. Donc, ça bouge peu.
Alors, ça demande, oui, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'études préalables. La dernière fois que nous avons bougé la carte scolaire à Rennes, parce que nous le faisons quand même régulièrement ailleurs dans le département, hein. Mais la dernière fois que nous l'avons fait à Rennes, c'était en 2016, hein, pour une application en 2017.
L'idée, le plus souvent, c'est d'envoyer les collégiens dans l'établissement qui est le plus près de leur lieu de vie. Quand on sait que la ville, justement, est construite avec des quartiers où on a, en quelque sorte, concentré des populations défavorisées, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus forcément systématique de penser comme ça, d'envoyer les élèves au plus près.
Ben, aujourd'hui, justement, à cause de ce que vous décrivez, la ségrégation socio-spatiale qu'on connaît dans beaucoup de grandes métropoles françaises, on est obligé de mettre en avant d'autres critères que simplement celui de la proximité si on veut avoir une population équilibrée dans les collèges.
On arrive au constat en s'appuyant sur l'IPS, l'indice de position sociale. C'est un indicateur qui est rendu public depuis pas très longtemps, depuis 2022, par l'Éducation nationale. L'indicateur, il s'appuie sur le profil du ou des parents. Et plus il est élevé, plus l'enfant vit dans un milieu socialement favorisé.
Tout à fait.
À l'échelle de la Bretagne, pour 2022, on se retrouve avec 7 des 10 collèges bretons, avec la moyenne d'IPS la plus élevée, qui sont dans le privé. Et puis, les 10 établissements avec l'indicateur le plus bas, eh bien, ils sont tous dans le public. Est-ce que le constat est le même à l'échelle du département d'Ille-et-Vilaine ?
Alors, en Ille-et-Vilaine, 8 des 10 collèges les plus favorisés sont des établissements privés et 8 des 10 établissements les moins favorisés sont des établissements publics, effectivement.
Donc le constat est à peu près le même.
Tout à fait.
Si on tire un peu sur le fil, on peut là aussi parler d'une forme de ségrégation sociale. Alors c'est pas du tout propre ni à l'Ille-et-Vilaine ni à la Bretagne, puisque la France est connue pour être un peu un mauvais élève à l'échelle de l'OCDE sur le sujet de l'école comme lieu de reproduction des inégalités, en tout cas à l'échelle de l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique. Peut-être dire en quoi c'est un problème, on pourrait se dire bon.
Alors, il y a effectivement ce qu'on peut appeler une forme de séparatisme scolaire des riches. Qu'est-ce que ça pose comme problème ? On est dans une société qui est de plus en plus atomisée, qui est de plus en plus violente, qui est de plus en plus séparatiste. Et donc, l'idée de la mixité sociale, c'est de dire d'abord la mixité sociale et le fait de connaître l'autre. C'est favorable à l'apprentissage, ça développe des compétences psychosociales importantes et c'est également une façon, je dirais, de faire en sorte que les élèves n'aient pas une pression insupportable, qu'on ne soit pas dans des établissements où seule la compétition compte.
On peut imaginer, je pense, assez facilement des leviers pour améliorer la mixité sociale dans le privé. Ce sont les directeurs d'établissement qui le disent, notamment avec des facilitations financières pour des familles plus défavorisées. Par exemple, ça, je pense qu'on peut l'imaginer. Là où c'est plus complexe, c'est dans le public. On fait quoi pour garder les familles les plus aisées ?
Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on rassure les parents avant tout, c'est-à-dire que lorsque nous allons peut-être déplacer certains quartiers vers des lycées de centre-ville ou l'inverse, il va falloir que ça s'accompagne de moyens. Si je prends l'exemple qui a été l'expérience qui a été menée à Toulouse, où il y a une fermeture de collège de bas des tours et un déplacement des élèves vers le centre-ville.
On appelle ça le busing.
Le busing, si on veut, oui, effectivement. avant, eh bien, ça s'est accompagné de moyens très importants mis à la disposition des enseignants et des établissements par l'académie, c'est-à-dire des maîtres de mixité sociale. Un travail très important qui a été fait entre le premier degré et le collège, les collèges d'accueil, mais également les collèges qui allaient fermer. Et donc, ça, c'est de nature à rassurer les parents, parce que ce qu'on travaille avant tout dans ces expériences-là, c'est évidemment le climat scolaire, ce qui permet de favoriser l'épanouissement et l'apprentissage. Un climat scolaire apaisé, avec des gens différents, de toutes sortes, ça favorise les apprentissages.
Il faut donc démonter certaines idées reçues sur les collèges publics. Les collèges sont dans un bon état. Mais il reste quelques chiffres, je pense notamment au brevet. Certains parents vont vous dire oui, mais les résultats du brevet sont meilleurs dans le privé que dans le public. Ça, c'est vrai là-dessus.
Alors là-dessus, je vais citer une image de Pierre Merle, qui est un sociologue de l'éducation rennais, et qui me disait hier soir en fait, c'est comme si des piscines refusaient les non-nageurs. D'accord. Donc les résultats, ce sont des statistiques, mais ça ne dit pas en fait les efforts qui sont poursuivis par l'établissement pour mener chacun au sommet de ses potentialités, au sommet de son potentiel. Donc le public, effectivement, peut-être que les résultats du brevet sont moins intéressants dans un établissement ou dans l'autre, mais ce qui compte, c'est de voir quelle progression ils ont permis aux élèves qui leur sont confiés, et dans le public, tout le monde est le bienvenu.
Le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine pour améliorer la mixité sociale dans les collèges a déjà fait des choses. À Toulouse, il y a le busing. Ici, en Ille-et-Vilaine, il n'y a pas de terme anglais, mais il y a eu le choix de fait dans la précédente carte scolaire d'envoyer des élèves des quartiers de Villejean vers des collèges de centre-ville. Et inversement, ça a marché que dans un sens. C'est là où on voit les limites de
voilà.
cette politique.
Alors ça, c'était une possibilité qui nous était offerte à cette époque, en 2016 à peu près, de créer des secteurs multicollèges où on imaginait qu'en rassemblant trois collèges, les gens allaient pouvoir se mélanger dans leur secteur d'un collège à l'autre. Ça a extrêmement bien marché pour certains élèves de Villejean qui se sont emparés de cette possibilité pour aller un petit peu plus loin et être accueillis dans des lycées de centre-ville, Anne de Bretagne et Zola. Et dans l'autre sens, ça marche moins bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'aune de cette expérience, eh bien, on va avoir des techniques sans doute un peu différentes.
Là, je pense à ça, on parle un peu d'un milieu urbain où finalement les distances entre deux collèges sont facilement réalisables en métro. Quand on va de Villejean jusqu'au centre-ville, c'est une dizaine de minutes en métro. C'est pas une distance trop longue à parcourir. Quand on sort du territoire urbain en Ille-et-Vilaine dans un territoire plus rural, j'imagine que là, les contraintes sont plus grandes à lever.
Alors, aujourd'hui, on fait une refonte de la carte scolaire de Rennes et sa première couronne. Les problématiques de mixité sont très différentes dans le milieu rural. Notamment, les collèges privés sont beaucoup plus mixtes dans le milieu rural. Donc, on n'a pas les mêmes problématiques. Aujourd'hui, on se concentre donc sur Rennes et sa première couronne, je l'ai dit. Il y a effectivement une énorme facilité qui nous est donnée par ce merveilleux métro et ces deux lignes de métro. Pour autant, il ne faut pas ne pas prendre en compte les réticences des parents, parce qu'on parle d'élèves de 6e. Et donc, si jamais on devait prendre des décisions comme ça, je pense que ça devrait également s'accompagner dans les transports de facilitation pour que les parents ne soient pas inquiets de laisser leurs enfants aller trop loin.
Le prochain chantier du conseil départemental, c'est cette refonte de la carte scolaire. Vous avez lancé une consultation auprès de parents d'enfants qui vont du CP jusqu'au CM. Il faut dire pourquoi ce public. Vous pensez le projet en fait en amont du collège?
C'est ça. En fait, les décisions qu'on va prendre vont commencer à s'appliquer à la rentrée 2024. Donc, nous avons invité les parents des écoles primaires de Rennes du CP au CM1 à venir s'exprimer dans le cadre d'une concertation dont la première partie a eu lieu hier. Ils ont pu rencontrer les chercheurs, les sociologues de l'éducation avec lesquels on a pu travailler. Ils ont pu poser leurs questions. Ils ont posé énormément de questions très intéressantes. Ils sont intéressés par le sujet parce que ça concerne leur progéniture, évidemment, c'est ce qu'on a de plus précieux. Mais aussi, je pense que le sentiment que j'ai eu hier soir, c'est qu'il comprenait aussi la dimension sociale et sociétale de ce sujet. Donc j'espère que les ateliers de secteur qui vont avoir lieu tout au long du mois de juin vont nous permettre de préciser tout ça.
Puisque ce ne sont pas juste les écoliers de Rennes qui sont concernés, mais donc Rennes, Champy, Saint-Grégoire, Thorigné-Fouillard et Vezin-le-Coquet. La première rencontre a eu lieu mardi 5 juin. Il y avait le département, évidemment, des parents, aussi des chercheurs, c'est ça ?
Oui, c'est ça. On est accompagné par Choukri Benayed, qui est professeur à Limoges, qui est un grand spécialiste de la question, qui vient de sortir un livre d'ailleurs là-dessus, par Étienne Boutzbar, qui travaille au CNESCO, donc le Centre National d'études des systèmes scolaires, qui nous suivent depuis plus d'un an. Et puis Pierre Merle aussi, qui est un sociologue de l'éducation breton, rennais, nous a fait l'amitié aussi de participer à cette réunion.
La nouvelle carte scolaire, quand elle aura passé cette étape de la consultation, elle devra encore être validée par l'éducation nationale, hein, c'est ça, avant d'être adoptée en conseil départemental ?
Alors, elle n'est pas validée. La compétence juridique, c'est celle du département. En revanche, on a besoin de la ville, on a besoin des collectivités, on a besoin de l'académie. Donc c'est un dialogue qui est permanent depuis un an. On ne fait que des allers-retours pour ajuster et voir un petit peu ce qu'on va pouvoir produire comme nouvelle carte. Évidemment, si on a besoin de moyens suite aux gestes qu'on va faire, mais l'académie sera en première ligne, c'est elle qui les attribue. Donc on fait tout en concertation avec elle. Mais c'est bien nous qui prenons la décision.
Est-ce qu'on peut donner un exemple de changement concret là, qui pourrait concerner ces futurs collégiens de Rennes, Champy, Saint-Grégoire, Thorigné-Fouillard ou encore Vezin-le-Coquet ? En quoi ça peut changer des choses et avoir des effets sur la mixité sociale ?
Les hypothèses sur lesquelles on travaille, c'est l'ouverture ou la fermeture d'un collège, le rattachement d'écoles entières à un collège, ce qui n'est pas le cas actuellement, et ce qui nous permettrait peut-être de prendre une école un peu moins favorisée pour la diriger vers un collège un peu plus favorisés. On a tout un tas de techniques, notamment il y a également celle de la montée alternée qui est un petit peu plus compliquée à expliquer, mais qui permet de mélanger en fait la population de deux collèges en rassemblant les deux collèges dans un seul secteur. Voilà en gros les leviers que nous avons.
Là, vous venez de lancer un premier atelier avec des parents. C'est une appréhension, la façon dont ça va être perçu, reçu par les parents d'élèves ?
On a besoin de l'adhésion des parents d'élèves. Parce qu'on ne peut pas faire les choses contre les gens, contre leur gré, on ne peut pas leur parler d'un grand projet de société, c'est eux la société. Donc c'est pour ça qu'on fait cette concertation extrêmement forte et j'ai annoncé hier soir d'ailleurs que s'il y avait des parents qui n'avaient pas pu être touchés par notre invitation, on allait faire des réunions supplémentaires. Notamment, je pense aux parents allophones. Je pense à toute une partie de la population qui est écartée un peu de ces concertations-là de manière naturelle. Donc, on a besoin de l'adhésion des parents et c'est ça qu'on recherche à travers cette concertation.
Au-delà de l'opposition, c'est peut-être justement de réussir à leur dire que c'est un sujet important, c'est ça le défi ?
C'est ça, c'est pas contrer l'opposition des parents, c'est vraiment emporter l'adhésion des parents sur ce projet-là.
Je vous représente, Jeanne Larue, vous êtes vice-présidente au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et déléguée à l'éducation. Conseil départemental qui vient donc de lancer une concertation sur la mixité sociale dans les collèges. C'était fin mai, on suivra ce projet qui devrait arriver donc dans les collèges du département à la rentrée 2024. Pour plus d'infos, il y a toujours le site internet ille-et-vilaine.fr. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Dernière info avec laquelle je laisse les auditeurs, la signature prochaine d'un contrat donc entre le département et les collèges privés pour conditionner le versement des subventions sur la partie facultative de ces aides à des objectifs de mixité sociale, une initiative intelligente, je dirais. Philippe Melaine, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes secrétaire départemental du syndicat SNES FSU, donc pour l'Ille-et-Vilaine, et également enseignant dans un lycée rennais. On redit en un mot le SNES FSU en Ille-et-Vilaine, quelles sont les forces vives ?
Le SNES FSU, c'est le premier syndicat des enseignants du second degré, collège et lycée. Et ça représente à peu près 1000 adhérents.
Si je vous reçois, c'est parce qu'il y a un mois à peu près, votre syndicat s'est exprimé sur le sujet de la mixité sociale. Titre du communiqué, la messe est dite. On comprend que dans votre analyse, il va être question du rôle du secteur privé, on va y revenir. L'analyse concerne surtout les collèges, on explique pourquoi. C'est là que ce phénomène est le plus marqué de ségrégation sociale.
Oui, la ségrégation, alors, elle est d'abord territoriale. Hein. C'est une politique de la ville, on connaît... C'est pas les mêmes personnes qui habitent le Tabor ou qui habitent le Blône. Mais effectivement, ce qu'on observe de ce qu'on peut appeler une fuite du public vers le privé, c'est-à-dire après le primaire, s'avère très très fort au collège. Et à contrario, au lycée, on a un retour des familles qui étaient allées vers le privé et qui reviennent vers le public.
Pour faire simple, il existe un IPS, un indice de position sociale. Il est rendu public depuis très récemment, en fait, depuis 2022, rendu public par l'Éducation nationale suite un peu à l'alerte. On pourrait presque le qualifier de lanceur d'alerte, celui qui a demandé à ce que ces chiffres soient rendus publics. Et cet indicateur, il s'appuie sur le profil du ou des parents. En gros, plus il est élevé, plus l'enfant vit dans un milieu socialement favorisé. Et le résultat pour 2022, pour faire simple, c'est que le privé est plutôt associé à des élèves de milieux favorisés et le public à des élèves de classe populaire. C'est peut-être pas une grande surprise, mais là, les chiffres rendent quand même le constat assez flagrant, quoi.
Ouais, le constat est flagrant. Effectivement, ça n'est pas une surprise, on le savait. Hein. Avant même la publication des IPS, parce qu'on avait d'autres outils hein, qui étaient à notre disposition de l'INSEE, des départements, etc. On pouvait lire ça. Un exemple, sur Rennes, par exemple, on est sur les collèges privés à 42% d'élèves qu'on met dans la catégorie très favorisée. Alors qu'on est à 27% dans les collèges publics.
Je peux compléter en donnant d'autres chiffres à l'échelle bretonne cette fois. Si on prend les 5% de collèges avec un IPS, l'IPS le plus bas, eh bien 70% sont publics de ces établissements. Et si on prend les établissements avec les 5% avec l'IPS le plus haut, 80% là sont privés. Il faut dire que ce constat de non-mixité avec un phénomène donc de ségrégation sociale, il est particulièrement marqué dans les grandes villes. Quand on est dans le milieu rural, il y a quand même une mixité sociale qui est plus grande. Je l'ai expérimenté, moi, à mon échelle, quand j'étais au collège, avec des souvenirs du côté de Vitré. Là, le constat, il est marqué quand on est à Rennes, quand on est à Brest, quand on est aussi à Lorient, je crois. Donc ça, c'est important de le redire.
Oui, mais oui, bien sûr, c'est propre aux grandes villes, parce que une question de très pratique, quand vous êtes en milieu rural, qui a qu'un seul collège, vous prenez le collège de secteur. Alors que là, changer de collège... C'est quoi? C'est changer d'une station de métro, c'est ajouter 5 minutes de transport, donc c'est très, très facile.
Le département d'Ille-et-Vilaine, il se dit bien conscient de cette situation. Il est en train de refondre sa carte scolaire pour 2024 avec une période là de concertation avec notamment les parents d'élèves. Ils veulent les inclure dans ces réflexions. La carte scolaire, elle a déjà été modifiée. Vous vous dites que ça ne va sans doute pas révolutionner les choses?
Et comment vous expliquer? Bien sûr qu'on souhaite travailler là-dessus et améliorer la mixité scolaire. Donc notamment, on avait mené ce travail de concert avec le précédent conseil départemental. Et il y avait eu un projet, qui n'était pas le nôtre, hein, qui était de faire un collège multisecteur, c'est-à-dire que les élèves de Villejean pouvaient aller à Zola ou à Anne-de-Bé et vice-versa.
Et ça n'a marché que dans un sens.
Et ça n'a marché que dans un sens. On a réfléchi à d'autres éléments. Par exemple, si je prends les collèges publics, hein, je prends la Bankney qui est au Blône. La Bankney, c'est 5% de population très favorisée. Donc c'est rien du tout. Et pas très loin de la Bankney, nous avons les Ormeaux publics avec 58% d'élèves favorisés. Donc là, on voit la répartition territoriale de la ville. Eh bien, on pourrait par exemple... se dire, tiens, on va mettre du chinois, on va mettre des options à la Bankney pour faire venir... voilà. Eh bien, si on enlève le chinois aux Ormeaux et qu'on le met à la Bankney, la population qui prenait chinois aux Ormeaux va aller dans le privé, voilà, qu'entre les deux, et ils récupèrent comme ça du public, quoi.
Concrètement, si on bouge juste au niveau de la carte scolaire, il y aura toujours la possibilité pour des parents qui ne sont pas satisfaits par l'attribution du collège, en fait, d'aller glisser vers le privé.
Vers le privé, ouais.
On peut peut-être rester dans ce quartier, puisque vous le connaissez, sur le sud de Rennes, vous êtes enseignant dans le quartier du Blône. Alors vous êtes enseignant en lycée, ça permet de dire que ces constats là, de ségrégation sociale, ils sont moins marqués. On peut parler de l'établissement où vous travaillez, de comment ça marche en termes de mixité sociale?
Oui, donc c'est le lycée Descartes de Rennes. Comment ça marche en termes de mixité? Eh bien, le secteur de recrutement est à la fois sur les villes au sud de Rennes, Verne, jusqu'à Janzé. Voilà, avec des CSP+, plus, hein, plutôt, sauf quand on va vers la campagne, et à la fois du quartier du Blône-Poterie, c'est-à-dire des élèves issus du collège des Hautes-Ourmes, du collège de la Binquenay, des Chalets et du Landry. Voilà, donc ça fait, en tout cas, j'ai pas de chiffres. Je sais que c'est le lycée public, lycée général et technologique où la mixité est la plus importante ou meilleure, je veux dire. Hein, c'est une réussite. Et bien, ça fonctionne très bien.
Et vous y êtes enseignant en quoi, par curiosité ?
En SVT.
Vous qui êtes enseignant donc dans un lycée rennais, sur ce que permet la mixité sociale, ça a quels effets ? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'effets concrets, mais pourquoi c'est un sujet important, finalement, de parler de cette mixité sociale ?
Si vous voulez bien, je vais le prendre dans l'autre sens. C'est important aussi pour les CSP favorisés, c'est-à-dire vivre ensemble, on nous rebat les oreilles avec ça, il y a un vrai souci quoi, pour faire société, pour éduquer les citoyens entre eux. Donc ça c'est le premier élément, et puis globalement les expériences qu'on a lorsqu'on fait plus de mixité, c'est-à-dire des niveaux scolaires, sociaux plus mélangés, eh bien la réussite scolaire est meilleure.
Et donc c'est difficile de compter sur le bon vouloir des parents pour ces questions-là quoi.
C'est difficile, c'est voire même impossible, je pense. Et sans jeter la pierre, honnêtement, vous avez un enfant qui dépend de la carte Ré+, il va là-dedans, ça se passe pas bien. Ça peut se passer très mal aussi ailleurs, hein, dans des collèges favorisés. Hein. En tant que parent, vous allez le sortir de là. Voilà, et pour changer de collège, il n'y a que le privé qui va faire. Donc on peut comprendre la démarche. Ce qui est dommage, c'est que les parents n'essayent même pas. C'est-à-dire qu'ils fuient avant sur une réputation qui n'est pas vraie. Moi, si je prends le collège des Hautes-Ourmes qui aurait plus, oui, il y a des élèves en difficulté. Mais il y a une équipe, justement, qui, derrière, fait tout ce qu'elle peut et ça fait du bon boulot. Ouais.
Ce qui vous questionne, là on arrive à cette question du secteur privé, donc ce qui vous questionne, voire peut-être vous irrite un peu au SNES FSU, c'est que le privé il est subventionné par les collectivités locales sur les collèges en Ille-et-Vilaine, donc ce sont 47 collèges privés qui sont aidés pour leurs dépenses de fonctionnement mais aussi d'investissement. Les auditeurs le savent peut-être pas en fait que le privé ne fonctionne pas sans subvention, il est subventionné à 75% par des aides publiques. Vous pensez que c'est mal connu, ça ?
Je pense que c'est mal connu, notamment l'idée que, obligatoirement, les enseignants et enseignantes du privé sont payés par l'État. Une école ne pourrait pas avoir les moyens, sauf quelques écoles rares qui existent, privées et payantes. Donc le privé ne pourrait pas avoir les moyens de financer les salaires des enseignants. Donc c'est un des rares systèmes au monde où l'État finance sa propre concurrence.
L'État et puis le département, il y a en fait une partie un peu socle qui est obligatoire et une partie qui est laissée optionnelle au département pour financer à la fois des actions culturelles, éducatives aussi, de l'investissement pour les bâtiments. Ça veut dire que d'après vous, ça doit être remis en cause à l'échelle nationale ?
Oui, il y a un vrai souci qui ne peut que se régler à l'échelle nationale. Alors à chaque fois qu'on en parle, on nous dit on ne va pas raviver la guerre scolaire, etc. Mais pourquoi ? Ce n'est pas question de guerre, c'est question de savoir comment est-ce qu'on veut imposer de la mixité. Imposer, hein, il faut le faire de manière volontaire. Ça se fait dans d'autres régions, il y a eu un travail à Paris, il y a eu un travail à Toulouse. Et ça a été possible parce qu'il n'y avait quasiment pas de privé. Et là, on a pu faire quelque chose. Donc tant qu'on garde le statu quo, notamment en Bretagne avec l'enseignement privé, on ne peut pas jouer, on ne peut pas améliorer la mixité.
Mais alors, si on supprime les subventions, très clairement, le secteur privé ne tient pas.
Voilà.
C'est ça la difficulté. On imagine que ça peut soulever une colère immense des défenseurs de l'école privée liée à l'histoire de la région.
Ouais, mais alors, si on parlait un petit peu du fond, moi, quand j'étais collégien, il y avait une aumônerie, par exemple. C'est-à-dire que j'étais en collège public avec un enseignement religieux. Donc, il ne s'agit pas de détruire la religion. Il s'agit d'offrir la possibilité à tout le monde de suivre ça. Donc on pourrait très bien se poser tous calmement en disant eh bien, on offre l'enseignement religieux, et de plusieurs religions d'ailleurs, hein, il n'y a pas que la religion catholique en France, au service public, et puis on fond les deux systèmes, public et privé, ensemble, et on voit tout, c'est faisable. Hein.
Autre requête de votre part, en plus de remettre à plat là, ces histoires de financement, c'est que les collèges avec des indices de position sociale faibles bénéficient de moyens renforcés parce qu'en fait, ils ne sont pas tous classés en réseau d'éducation prioritaire. Comment est-ce qu'on l'explique, ça ? C'est qu'ils ne sont pas bien placés sur la carte et...
Ouais, il y a une carte de réseau d'éducation prioritaire qui s'est dessinée en 2018, je crois. Et donc, on a quelques collèges de REP et puis un collège de REP plus, le seul hein, dans l'académie en Bretagne, qui est le collège des Hautes-Ourmes. Et là, il y a une volonté de mise à bas, de destruction, ouais, de destruction de l'éducation prioritaire. C'est censé maintenant plus être géré comme ça, mais des financements qui iraient sur des projets, quoi. Voilà, donc tel ou tel projet serait financé des heures en plus, et là le privé rentrerait dedans avec une enveloppe qui est toujours la même. Donc on va partager l'enveloppe qu'il y avait dédiée à l'éducation prioritaire et la diluer entre collège public et collège privé.
Ça c'est en projet ?
Ah oui, c'est un projet national. Ça a été expérimenté dans 3 académies cette année. On n'a pas le bilan. Marseille, Lille et je ne sais où. Alors avec la spécificité, c'est que l'académie de Rennes fait partie des académies les plus favorisées, où il y a moins d'éducation prioritaire, globalement. Mais quand on prend sur des points aigus par quartier et par ville, la question est la même qu'à Paris ou en Seine-Saint-Denis.
On peut redire ce que le fait d'être classé en réseau d'éducation prioritaire permet aujourd'hui, c'est plus d'enseignants, plus de... Comment sont répartis les moyens supplémentaires alloués ?
Ouais, alors ce qui est intéressant pour un collège, c'est d'être classé en REP+. Le REP tout seul ne donne pas grand-chose, mais le REP+ permet d'accéder à une revendication qu'on a, même s'il n'est pas entièrement satisfaite, c'est-à-dire 24 élèves maximum par classe. Nous, on souhaiterait que ce soit 16 hein, en éducation prioritaire. Une reconnaissance salariale, c'est-à-dire qui permet de stabiliser les équipes. Voilà, et puis quelques subventions sur des projets.
Et donc le constat que vous faites, c'est que sur l'Académie de Rennes, qui couvre tout le territoire de la Bretagne, les 3 collèges publics les plus défavorisés, mais ils ne sont pas classés en REP+, et ne bénéficient donc pas des moyens dont ils auraient besoin.
Effectivement, on a un souci avec ce classement-là, notamment je pense que le collège Rosa Parks à Vigean est dans une situation où l'IPS est très faible, où les problèmes on les connaît, ou qui a récemment fusionné sur un seul site, et ça marche pas très bien. Les équipes se démènent, hein, voilà, les cours ont lieu bien sûr, mais il aurait besoin d'un soutien. En fait, c'est le nombre de collèges REP plus qu'il aurait fallu augmenter, notamment en Bretagne. Mais avec cette réforme, eh bien, on va fonctionner autrement, donc en espérant que Vigean puisse bénéficier de moyens supplémentaires, ça serait bien.
Et alors là, un mois après la publication de votre communiqué, dont le titre était « La messe est dite », vous continuez à mener ce combat. Alors, on voit que le ministre, dans le discours, disait faire de cet objectif un enjeu prioritaire. Finalement, les promesses ne sont pas tenues. Vous êtes assez déçu de l'action de ce ministre-là ?
Oui, alors déçu, d'autant plus que c'était quand même quelque chose qu'il avait mis fortement en avant, donc il a complètement abandonné cette idée-là, donc il n'y a plus aucune mesure contraignante pour le privé, ce qui fait qu'ils ne vont rien faire. Nous, notre travail, c'est un travail de fond, hein. Dans nos mandats, c'est on ne veut pas d'école privée, on veut du public partout pour tout le monde. Voilà, donc on va continuer à se battre, notamment travailler avec le conseil départemental, qui est assez ouvert sur la question, hein, voir ce qu'on peut faire ensemble. Sans avoir trop d'illusions, tant qu'on peut pas contraindre le privé.
Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, aurait vendu millions d'euros et j'ai poussé comme une rose parmi les orties. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, aurait vendu millions d'euros. Ouais. Nique les clones. Je t'avais promis qu'un jour tu te rappellerais de nos têtes. Je ne suis pas prêt de me taire, de la primaire au lycée déprimé, mais je me sentais prisonnier parce que les professeurs voulaient toujours me noter. Pourtant j'aimais les cours, j'étais différent de tous ceux qui me disaient soit tu subis, soit tu mets les coups. Moi je rêvais d'aventure, griffonnais les devantures, j'attaquais tous ceux qui m'étaient défendus. Rien à péter de toutes leurs émissions télé devant Dieu. Je voulais voir le monde avant d'être rappelé devant Dieu. Et pour ne pas qu'on se moque de moi, je bouquinais en cachette pendant que les gamins de mon âge parlaient de voiture. Un des gars de l'époque lui cravait des armes à Nicole. Et un beau jour il a ramené une arme à l'école. J'étais choqué de le voir avec un Glock. Oui, j'en ai rien à foutre de vos putains de codes. Oui, j'avais peur, je l'ai dit. Mais j'ai un cœur, je le dis, mais je suis toujours là pour mes putains de potes. Maintenant pour lui le bruit des balles est imprimé dans le crâne. Ceux qui traînaient dans le bas l'ont entraîné vers le bas. Faut jamais céder à la pression du groupe. De toute façon quand tu fais du mal au fond tu ressens du doute. Faut jamais céder à la pression du groupe. De toute façon quand tu fais du mal au fond tu ressens du doute. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, aurait vendu millions d'euros et j'ai poussé comme une rose parmi les orties. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, aurait vendu millions d'euros et j'ai poussé comme une rose parmi les orties. Je suis un nomade, ne me dis pas qu'on est bon qu'à stagner. Casse-toi, moi je ne me sens pas casanier. Instable, ne me parlez pas de m'installer. Quand t'es différent des autres, on veut te castagner. T'es malheureux quand t'as qu'un rêve et que tes parents ne veulent pas traîner vers le bas. T'inquiète, je te promets de me battre. Non, je n'aime pas quand je me promène et que je vois ce petit qui se fait traquer pour des problèmes de poids. Mais pour qui se prend-on de triste pantin? J'ai Christ pensé pour que le Christ m'entende. Et dans nos cœurs, on est à l'ère de l'âge de glace. Et mais c'est plus qu'un personnage de hache. On n'est pas des codes barres, t'as la cote sur les réseaux, puis ta cote barre. Non, on n'est pas des codes barres, t'as la cote sur les réseaux, puis ta cote barre. Le regard des gens t'amènera devant le mirage du miroir. Mais moi j'ai la rage, ma vision du rap, elle est rare. Tant qu'un misérable s'endormira dans la rame, pendant que le rat se réchauffera sous les rails. Conforme des copies conformes. Quoi?
qui ne pensent qu'à leur petit confort. Plus conforme des copies conformes, qui ne pensent qu'à leur petit confort. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, on aurait vendu millions d'euros et j'ai poussé comme une rose parmi les orties. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, on aurait vendu millions d'euros et j'ai poussé comme une rose parmi les orties.
Ma peine en leur parlant de nous, je décuple mes sens comme un handicapé. Comment trouver le chemin qu'on m'indique à peine? Je me sens comme Andy Kaufman, man on the moon. J'ai tué ma peine en leur parlant de nous, je décuple mes sens comme un handicapé. Comment trouver le chemin qu'on m'indique à peine? Je me sens comme Andy Kaufman, man on the moon.
Dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.
C'est pas mal ça, la voix de l'abbé Pierre dans le morceau « Nique les clones, partie 2 » de Nekfeu, que vous venez d'entendre évidemment sur Canal B. C'est un morceau qui date de 2015, alors il faut dire que l'école est un sujet d'inspiration dans le rap, qu'il cristallise aussi la colère d'une partie de la jeunesse en milieu défavorisé. On l'a vu dans les émeutes survenues après le décès du jeune Naël, je reviens pas là-dessus. Ce sont quand même 243 établissements scolaires qui ont été dégradés, parfois incendiés. Le quotidien Le Monde évoque à ce sujet l'échec de l'école à enseigner l'éducation civique, mais ce qu'on a pu comprendre là au bout d'une heure d'émission, c'est que cette école, elle échoue surtout à endiguer des phénomènes de reproduction sociale et qu'elle en est même un des outils. Avant de vous laisser, quelques recommandations à destination de la jeunesse rennaise, car si vous m'avez écouté, peut-être que vous êtes jeune, peut-être que vous êtes aussi parent et particulièrement intéressé par ces questions d'éducation. Alors, j'ai 5 recommandations à vous donner. Ce week-end, les Jardins de Bécherel, on est à 20 minutes au nord de Rennes, accueillent le festival Au Jardin Pestaculaire, une proposition de l'association Regard de Môme pour les 0-12 ans et leurs familles, avec au programme du vendredi 7 au dimanche 9 juillet, un concert le vendredi soir, 30 ateliers de cuisine, de sciences, de yoga, et puis 29 représentations de spectacles de rue de 7 compagnies différentes. Les tarifs vont de la gratuité à 10 euros. Deuxième conseil, lundi prochain, il se trouve que c'est le premier jour d'ouverture de 2 villages sportifs. Il y en a un au parc des Hautes-Ourmes dans le quartier du Blône et l'autre dans le parc de Maurepas, dans le quartier de Maurepas, vous l'aurez deviné. Et donc, à partir du 10 juillet jusqu'au 31, tous les après-midi du lundi au vendredi, les 8-14 ans pourront se défouler à travers des activités sportives. Ça se passe à chaque fois de 14h à 19h, un temps qui sera encadré par les éducateurs sportifs de la ville de Rennes qui proposeront tout un tas d'activités sportives gratuite. Mercredi 12 juillet à 11h, j'ai repéré une visite spéciale enfant au musée des Beaux-Arts de Rennes. Un tableau du musée a disparu, c'est le point de départ à un parcours truffé d'énigmes pour le retrouver. Réservation par email à l'adresse mba-reservation@ville-rennes.fr, c'est un peu long. D'autres visites de ce genre seront proposées jusqu'à la fin du mois d'août, en plus de la date du 12 juillet. Le même jour, le mercredi 12 juillet, donc de 16h à 19h, il y a des animations qui seront proposées sur la dalle du Colombier, un village avec des ateliers tir à l'arc, hip-hop, parcours vélo, création. La possibilité aussi de faire des jeux de société et d'écouter des concerts. Une proposition gratuite de la ville de Rennes organisée en partenariat avec les associations de ce quartier colombier, notamment, on la cite, l'association de la Tour d'Auvergne. Et on termine avec une proposition du cinéma L'Arvor qui, chaque jeudi de l'été, organise une projection pour le jeune public. En tout, 8 films de mer calme à mer agitée. Et jeudi 13 juillet à 18h, c'est Le Monde de Nemo qui sera diffusé sur écran. Un film d'animation sorti par Pixar il y a maintenant 10 ans et qui est accessible dès 6 ans.
Et voilà, la grande falaise. Allez les enfants, faites vos observations, mais ne vous éloignez pas. Une cyanobactérie stromatolytique, regardez! Tout un un écosystème concentré dans une particule microscopique.
Voilà, je vous laisse là-dessus. De Boule Vanille, c'est terminé pour aujourd'hui. Une émission estivale concoctée par les membres de l'équipe de Canal B à écouter du lundi au vendredi à chaque fois à 17h. Et comme le sujet était pas joyeux, je vous laisse quand même avec un générique qui l'est un peu plus. À bientôt.